La peine de mort en débat à Digne.
Rongé par le remords d'avoir envoyé un assassin à la mort, Lindy Lou Eisenwood, une ex-jurée, est partie confronter ses co-jurés aux conséquences de cette décision. Lindy Lou, jurée numéro 2, est un road movie confession dans lequel une Américaine, jurée dans un procès d'assises en 1994, retrouve un à un les autres membres du jury. Leur point commun ? Avoir voté à l'unanimité la sentence capitale pour Bobby Wilshire, auteur de deux meurtres de femmes en 1982. Son histoire est racontée dans un documentaire intense de Florent Vassaux. Ce film, projeté au Ciné-Étoile dans le cadre du Festival du film documentaire sur les droits humains, nous interpelle. Après la projection, le débat était animé par Anne Denis, responsable de la commission Abolition, peine de mort et torture à Amnesty International France. Elle répond aux questions d'Odile Frison et explique ce qui est intéressant dans ce film.
Je suis responsable de la commission Abolition, peine de mort et torture à Amnesty International France.
Ce soir, un film qui porte à réflexion Lindy Lou.
Lindy Lou, c'était un juré, une femme jurée dans un procès qui a décidé de la vie d'une personne. Il a été recondamné à mort par un jury qui était unanime. Et Lindy Lou ne voulait pas, au départ, condamner cet homme à mort. Et pendant 20 ans, elle va réfléchir, elle va revenir sur sa décision et finalement, elle va essayer de rencontrer les jurés de son jury. Ce qui est important, c'est qu'elle a rencontré Bobby Wilshire, donc le condamné à mort qui sera exécuté. Le jour de son exécution, elle a été autorisée à le rencontrer et elle a été surprise de rencontrer un être humain, en fait. Elle avait peur qu'il soit tout à fait méchant avec elle, qu'il l'insulte, qu'il soit énervé puisqu'il devait être exécuté 2 heures plus tard. En fait, il ne sera pas exécuté parce qu'il y aura un sursis à exécution. Il aura un sursis qui va durer 3 mois pendant lesquels Lindy Lou va le rencontrer plusieurs fois, lui écrire, lui parler et essayer de mieux le connaître.
Alors ce que je ne comprends pas, c'est 15 ans d'attente, c'est ça ? 15 ans avant l'exécution ?
Oui, mais il y a les appels. Aux États-Unis, il y a énormément de niveaux d'appels. Et donc, plusieurs appels ont été formulés. Et à la fin, Bobby Wilshire, d'ailleurs, avait renoncé à ses appels. Et c'est pour ça qu'il avait eu une date d'exécution au bout de 15 ans. Son nouvel avocat a alors demandé un sursis parce qu'il voulait représenter un appel et qui finalement a été rejeté au bout de 3 mois.
Alors vous parliez de... Enfin, c'est intéressant par rapport aux jurés, comment ils sont choisis et surtout, il faut absolument qu'ils soient pour la peine de mort.
Absolument. C'est la première question qu'on va poser aux jurés potentiels. Est-ce que vous êtes prêt à condamner à mort ? Et si vous dites non, eh bien, vous serez éliminé du jury potentiel.
Ça s'appelle plus qu'une influence.
C'est-à-dire que voilà, on dit c'est la loi et donc il faut que vous soyez capable d'appliquer la loi. Mais la manière dont ça se passe, effectivement, ça élimine une grande partie de la population américaine puisqu'il y a au moins 40% de personnes qui sont contre la peine de mort.
40% aux États-Unis ?
À peu près, oui. Plus ou moins, hein, ça peut varier. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on propose aux personnes qui sont interrogées de remplacer la peine de mort par une perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, ils vont être plus nombreux à voter pour la perpétuité plutôt que pour la peine de mort.
Vous parliez financièrement, si on peut voir ce côté-là, ça coûte plus cher de condamner à mort que la prison à perpétuité ?
Absolument, ça coûte beaucoup plus cher parce qu'il y a toutes les séries d'appels. Or, 95% des condamnés à mort aux États-Unis sont indigents, c'est-à-dire que ce sont les États qui doivent payer pour les appels. Alors, il y en a qui ne payent pas longtemps, comme le Texas, mais les autres vont suivre toute la procédure d'appel. Même s'ils sont obligés de nommer d'office des avocats, il faut quand même qu'ils les rémunèrent. Il y a la tenue des tribunaux, etc. Et ça a un coût important. La Californie, par exemple, depuis la date de reprise potentielle des exécutions, c'est-à-dire en 1976, a dépensé 5 milliards de dollars, qui est quand même une somme faramineuse.
Et si on devait faire le tour par rapport au pays abolitionniste,
alors, il y a 108 106 pays qui sont abolitionnistes pour tous les crimes en droit, 8 qui sont abolitionnistes en droit pour les crimes de droit commun, et 28 qui sont abolitionnistes en pratique, c'est-à-dire qui n'ont pas exécuté depuis au moins 10 ans. Et donc cela fait 142 États qui sont abolitionnistes en droit ou en pratique sur 198, ce qui laisse 56 États non abolitionnistes dans le monde. Et parmi ces 56 États, il y a à peu près 25 États qui exécutent dans le monde.
Ce qu'on voit bien, c'est que cette Lindy Lou, elle est croyante. Quelle est sa religion ?
Lindy Lou est une baptiste du Sud. Donc pour les baptistes, c'est surtout l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, qui prévaut. Donc c'est pour cela que dans le jury, il y en a plusieurs qui trouvent que c'est bon, voilà, il le mérite et terminé, on le condamne à mort et on l'exécute. Les évangélistes et les baptistes du Sud, ce sont ceux qui sont plus favorables à la peine de mort. Les autres religions sont opposées à la peine de mort.
Et en France, c'est vrai qu'on n'a plus la peine de mort, encore que certains, des fois, auraient envie de remettre les condamnations à mort.
Oui, alors en France, on n'a plus de peine de mort, c'est inscrit dans la Constitution. La France a signé et ratifié des traités régionaux, donc du Conseil de l'Europe, puis des traités internationaux à l'ONU, qui l'empêchent de revenir en arrière. Alors bien entendu, on profite, lorsqu'il y a un crime odieux qui est perpétré, de mélanger la vengeance avec la justice et de dire que telle personne mérite la mort et qu'il faut le condamner à mort. Il ne faut pas se raconter d'histoire, la France est abolitionniste et elle le demeurera normalement si quelque chose d'extraordinaire ne se passe pas. C'est-à-dire si on se retrouve avec une troisième guerre mondiale ou d'autres événements de la sorte, nul ne peut dire ce qui adviendra. Mais la France ne reviendra pas en arrière tel que c'est fait maintenant dans son droit.
Donc ça date depuis 1981.
Alors, 1981, ça a été l'abolition qui a été votée. Ensuite, il y a eu l'inscription dans la Constitution. C'est le président Chirac qui a souhaité que ce soit noté dans la Constitution. Et ensuite, il y a eu les signatures, des ratifications de protocoles, donc les protocoles 6 et 13 de l'Europe, du Conseil de l'Europe. Et enfin, le deuxième protocole facultatif au pacte relatif aux droits civils et politiques de l'ONU. Et c'est ce protocole qui ne peut pas être dénoncé et qui donc ne permet pas de retour en arrière.